Bienvenue sur le podcast de la fraudologie. Je suis Denis Pénaud, spécialiste de la lutte contre la fraude, et je vous propose de découvrir ensemble toutes les solutions qui vous aideront à mieux vous protéger de la fraude. Nous partagerons l'expérience de personnes qui ont vécu une fraude et les points de vue des meilleurs spécialistes. L'objectif est simple: vous immuniser contre la fraude. Alors bonjour à tous, nous sommes en février 2021. Et l'actualité est chargée d'exemples d'entreprises ou d'administrations qui sont victimes du même type d'attaque. Alors on peut les appeler ransomware, cryptovirus, cryptolocker ou encore rançongiciel. Mais ils font tous la même chose. Ces virus rendent les données informatiques inaccessibles en les chiffrant. Et les cybercriminels réclament le paiement d'une rançon en échange de la clé qui permettra de les récupérer. Alors la menace concerne absolument tout le monde. Et vous, dans votre entreprise, vous vous posez peut-être des questions sur le niveau de préparation de votre entreprise et aussi sur la manière dont vos équipes pourraient réagir dans la même situation. Et pour vous aider à mieux vous préparer, nous avons la chance de partager aujourd'hui l'expérience d'Antoine Pigeot, le dirigeant du groupe Oxinet. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors Antoine, pour fixer le contexte, Oxinet, c'est une PME qui propose des services de ménage, de jardinage ou des travaux pour les entreprises et les particuliers. Combien est-ce qu'il y a de salariés chez Oxinet aujourd'hui?
Une quarantaine.
Une quarantaine de salariés, ok. Donc ça permet aussi de se rendre compte que les attaques ou les problèmes informatiques qui peuvent être malveillants ne sont pas réservés aux grandes administrations, mais voilà, une PME de 40 personnes, c'est aussi une cible potentielle. Alors on va voir exactement comment ça s'est passé avec vous. Et justement, donc votre entreprise Oxinet a subi une attaque par ransomware récemment. Est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Donc c'était en novembre dernier, okay. Lundi matin, je suis arrivé au bureau et on n'avait plus d'accès à notre serveur externalisé. Donc nous, toutes nos données sont sur serveur externalisé.
D'accord.
Nos PC finalement ne servent pas à grand chose si c'est que ce sont des écrans en fait, hein.
Ouais, il y a pas d'intelligence. Ah oui, donc même les logiciels,
tout on travaille tout le temps en serveur externalisé.
OK. Très bien.
Et de là, il y a aussi la sauvegarde externalisée qui va bien et
Ouais, c'est ça, vous comptez sur votre prestataire pour gérer toute l'informatique. Vous n'avez pas d'informaticien en interne?
Non,
tout est à l'extérieur.
Tout est externalisé. Et ce qui est intéressant, c'est que cette mission, donc je l'ai externalisée dès 2012, il me semble.
D'accord, donc ça fait un moment.
L'entreprise ayant été créée en 2011. Et on a eu une expérience qui s'est avérée efficace dans le sens où, je ne sais pas en quelle année, mais on va dire en 2015 par là,
ouais.
Ma femme, qui travaille avec moi, avait ouvert un mail qu'il ne fallait pas à l'époque.
Ah.
Et ça avait crypté toutes les données du serveur.
Ah, donc vous aviez déjà eu une expérience.
On avait déjà subi une expérience de crypto-locage.
D'accord.
Des données. J'avais appelé aussitôt mon prestataire, qui est le même aujourd'hui. Hein.
Ouais.
Qui nous avait remis la sauvegarde donc de la veille au soir en 2 heures. En gros, on avait perdu une demi-journée de travail, c'est-à-dire qu'à midi, j'avais récupéré toutes mes données.
Ouais,
de la veille, on avait perdu quoi? 4 factures, 3 devis.
Ouais, quasiment $1 quoi.
$1, et donc ça m'avait conforté dans le fait que la solution qu'on avait était efficace et que j'étais protégé contre des pirates.
Ouais, donc en termes de préparation, cette première expérience-là fait qu'on se pose forcément plein de questions. Comment ça va se passer? Et puis finalement, 2 heures après, le truc est reparti.
Voilà.
J'ai quasiment rien perdu, j'ai quasiment pas perdu de temps. Mes équipes n'ont pas été touchées.
Non.
Donc on roule.
Voilà,
donc la préparation était a priori bonne.
Voilà, tout à fait. Donc j'étais même content de me dire bon voilà, ce que j'ai choisi comme solution avec mon prestataire, c'est la bonne.
Ouais, super.
J'en ai la preuve.
Et donc on peut durer comme ça dans le temps.
Et après,
j'ai confiance.
Et après, vous savez, en tant que chef d'entreprise, on a beaucoup de choses en tête, beaucoup de tracas,
ouais,
en tête, et ce tracas-là, je l'avais évacué de mon esprit.
Ouais, c'est ça.
Puisque j'avais l'expérience qui était $1.
Un truc en moins dans la charge mentale.
Voilà, nickel, ça fonctionne bien.
Parfait. Voilà. Alors, du coup, si ça s'est si bien passé la première fois, qu'est-ce qui a pu se passer cette fois-ci, donc au mois de novembre?
Eh ben, je pense que les pirates sont meilleurs que la première
ouais,
fois.
Malheureusement, ils s'améliorent aussi. Ouais.
Alors, ce qui s'est passé, c'est que de ce que j'en sais, ce seraient des pirates russes.
Ouais, les pays de l'Est sont assez bons dans ce domaine-là.
Voilà, ils auraient voulu attaquer un hôpital français, donc je ne connais pas le nom, dans un data center. Et nous, on était dans le même couloir, on va dire peut-être.
Ouais, c'est ça.
Le serveur était dans le même couloir.
La même baie de serveur. Je sais pas.
On est un dommage collatéral. Enfin, je dis on. Mon prestataire est un dommage collatéral puisque mon prestataire nantais a eu tous ses clients qui étaient en serveur externalisé comme moi d'impacter. C'est-à-dire que je ne suis pas le seul client de mon prestataire.
D'accord.
Il y a eu une quinzaine de ses clients.
Et oui, parce que lui, si je comprends bien, lui utilise ou loue de l'espace dans un data center et vous loue après vous ses services de gestion de toutes ces données.
Donc, lui,
il est intermédiaire.
Ce que l'on sait, c'est qu'il a une quinzaine de gros serveurs. Alors, quand je dis serveurs, moi, quand je parle de mon serveur, c'est un bout de serveur.
Oui, bien sûr. C'est tout ça virtualisé maintenant.
Voilà, lui a une quinzaine de gros serveurs dans un data center.
D'accord.
Et
vous étiez sur tous ces serveurs ont été touchés. D'accord.
Voilà.
Alors, quel impact pour vous concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ce jour-là, le lundi matin, vous arrivez et puis, plus d'informatique. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Antoine Pigeot à ce moment-là?
Bah, là, au départ, on se dit, parce qu'on a déjà eu des soucis de. Tiens, on n'a plus accès au serveur parce que un problème de fibre.
Oui, ça peut être des histoires de réseau. Oui.
Voilà, donc c'est déjà arrivé. Hein. Puis on n'a pas d'informatique pendant 2 heures. Bon, c'est pas très grave. On fait autre chose. On va sur le terrain, on va donner voir les équipes. Enfin bon, voilà, c'est pas grave. Donc au départ, on se dit pas grand chose. On se dit bon, c'est encore un problème de fibre ou autre chose. Et puis finalement non, parce que on se rend compte que c'est pas la fibre puisque j'ai Internet.
Ah, vous avez Internet. Okay.
Donc on se rend compte que du coup c'est le serveur. Donc là on appelle le prestataire et puis on n'arrive pas à les joindre parce que ils sont submergés.
Ils sont complètement sous l'eau déjà.
Et ils ont commencé à comprendre tout ça. Et là on arrive à joindre le gérant que je connais bien depuis maintenant 10 ans.
Ouais.
Qui nous dit qu'on a eu une attaque. De CryptoLocker.
D'accord.
Ransomware.
Ouais.
Mais il me rassure en me disant bon, on est sur le coup, on va, ça, t'inquiète pas, t'auras plus d'infos demain, mais bon, aujourd'hui, t'auras pas de serveur. Bon, ok.
Ok, donc là, on se dit ok, un jour d'inactivité en informatique, c'est encore gérable,
c'est
j'ai
rien.
De la paperasse à trier, voilà. J'ai des gens à aller voir sur le terrain,
exactement.
Ça va le faire.
Ouais, on est six au bureau. Je leur ai tous dit, bon, allez, on fait autre chose aujourd'hui, vous allez voir vos équipes, vos clients, on se débrouille. Et puis après, le lendemain, on se rend compte que finalement, on n'a pas beaucoup d'infos et que finalement, on ne va pas récupérer le serveur tout de suite.
Ouais. Et là, on n'a pas de visibilité.
Première semaine, on avait très très peu de visibilité. Donc, c'est compliqué comme situation parce que autant quand on a une situation où on n'a pas d'informatique mais qu'on sait. Que, mettons, si dès le début j'avais su que j'avais pas eu d'informatique pendant 3 semaines, on prend des dispositions tout autres. Quand on ne sait pas, c'est dur parce qu'on sait toujours bon, le lendemain ça va aller mieux ou le surlendemain, et finalement on prend pas de décision tout de suite parce qu'on sait pas comment ça va se passer.
On sait pas quelle est l'échelle de temps qu'il va falloir gérer. Quoi.
Voilà, ouais. Alors que si dès le début j'avais su que c'était 3 semaines, on aurait mis en place des solutions palliatives pour travailler.
Ouais. Pour continuer à faire des factures, continuer à faire des devis, mais en papier,
voilà.
Parce que là vous organisez rien de. Effectivement, comme vous dites, très bien, c'est ça. Comme on sait pas jusqu'à quand ça va durer, je sais pas si je dois ressortir mes vieux facturiers ou mes planches de devis.
On n'a pas sorti facturier, mais on a créé au bout d'un moment des devis et des factures sur Google Sheets. On a créé un espace partagé entre nous sur Google avec des devis et facturations sur Sheets.
Ouais.
On s'est adapté à cette situation-là, mais pas tout de suite.
Ouais,
on a attendu en fait à peu près une semaine et demie, enfin une semaine, on va dire au début de la semaine suivante. On a fait une situation de crise, une gestion de crise entre nous au sein du bureau, et on a dit qu'est-ce qu'on fait maintenant. On prend la décision de s'adapter à ça, de vivre sans serveur pendant quelques temps. Et qu'est-ce qu'on met en place? Alors, on a mis en place différentes choses. Typiquement, les devis et les factures, il fallait continuer quand même à faire du business. Donc, il fallait répondre aux clients.
Et alors, du coup, pendant cette semaine-là où vous savez pas comment ça va se passer, votre équipe, comment elle fait? Elle va sur le terrain, vous communiquez, ils sont frustrés. Qu'est-ce que vous vivez?
Alors, frustré, c'est le mot.
Ouais.
Au-delà de ça, ma femme et moi, pendant 3 semaines, on n'a pas passé de très bonnes nuits. Il y a eu des nuits où on n'a pas dormi. Parce qu'il faut bien s'imaginer que on avait donc toutes nos données depuis 10 ans.
Ah oui.
Donc plus de base client, plus de base fournisseur, plus de base, plus rien.
C'est ça, tout ce capital qui est hyper important pour l'entreprise, finalement, ce capital de données disparaît.
Et mais du jour au lendemain, on n'a plus rien, on a vraiment plus rien.
C'est
on
ça.
Est, excusez-moi du terme, on est à poil.
Ben oui, alors oui, ça, alors comment vous le visez ça, donc on dort très mal, parce qu'on se dit qu'on récupérera peut-être jamais cette histoire.
C'est ça, alors on se dit qu'il y a 10 ans d'entreprise derrière nous qui potentiellement peuvent être perdues, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, je souhaite à personne de le vivre parce que c'est très compliqué.
Ouais.
Surtout quand le prestataire, je lui ai fait le reproche après coup, qu'il a pas beaucoup communiqué dans les premiers jours, la première semaine et demie, on va dire. Et ça, c'est dur à vivre. Dans le sens où, alors après, il y a eu une communication. Il a créé un espace sur Internet, une espèce
qui
de blog
entre
lui et les 15 clients, en fait, pour qu'on puisse communiquer ensemble, qu'ils puissent chaque jour nous rassurer ou pas sur la situation.
Ouais, mais en tout cas, que vous ayez de l'info.
En tout cas,
quoi.
Nous informer. Voilà. Et après, quand on a de l'info, déjà, on le vit mieux.
Oui.
Mais quand on n'a pas
dans le brouillard.
Ouais. Les premiers jours, on n'en a pas beaucoup. Là, on le vit très mal parce que on est démunis et on n'a pas d'infos.
Et vous pouvez... Alors, comment ça se passe vis-à-vis... Parce que vous n'en avez pas. C'est vous l'interlocuteur de votre prestataire. Et vos collègues, les gens qui sont... Est-ce que les gens qui sont sur le terrain, eux, étaient voilà. informés? Comment vous gérez, la com vis-à-vis de vos équipes?
Alors, mes collègues du bureau me posaient la question tous les matins, tous les soirs.
J'imagine, parce qu'eux, ils ont envie de bosser, quoi.
Voilà, c'est ça. Et alors, les équipes terrain, on les a protégées par rapport à ça.
Okay.
Mais... Cette période-là, effectivement, a été dure pour tout le monde. Quand je dis tout le monde, tous les six au bureau, puisque eux-mêmes, ils sont adaptés, on a bossé vraiment, vraiment différemment.
Là, l'équipe se révèle aussi, peut-être, dans des moments comme ça.
L'équipe se révèle. Voilà.
Et du coup, alors là, vous n'avez pas d'infos. Excusez-moi, j'ai fait une digression sur la communication interne que vous avez menée, mais vous, vis-à-vis de votre prestataire, lui, est-ce que le fait qu'il ait mis une semaine et demie avant de commencer à communiquer de manière structurée vis-à-vis de vous et de ses autres clients, ça veut dire qu'il n'avait pas prévu ce type d'attaque? Il n'avait pas organisé à l'avance un plan de gestion de crise où il l'a construit au fur et à mesure de cette semaine et demie-là? Vous n'avez peut-être pas su, d'ailleurs.
J'ai su des choses, mais je ne sais pas s'il avait anticipé cette gestion de crise-là.
Ouais.
Mais en tout cas, lui, alors, quand je dis que moi, j'ai pas dormi, je pense que lui, il a vraiment pas dormi du tout, pour le coup. Ouais. Ses équipes terrain ont bossé jour et nuit.
Ouais, j'imagine.
Donc,
là,
ça a été très dur, en fait, pour eux. Il y a même un de ses collaborateurs qui a fait qui a fait une crise AVC.
Oh merde.
Oui. Enfin, ça a été une.
Ouais, ça a été super dur parce que ça a été trois semaines vraiment quasi non-stop où il fallait éteindre le feu en permanence.
Oui, week-end.
Oh là là. Ouais.
Communication avec les pirates, avec leur assurance, avec. Alors, c'est monté jusqu'à l'ANSSI. L'ANSSI, qui est.
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.
Voilà, au niveau de l'État.
Voilà, au niveau national, c'est
donc,
ça.
Donc, tous ces. Et il me disait que tous ces interlocuteurs-là ne se parlent pas.
Ah ouais.
Ou très peu. Il a fait appel à une entreprise qui est spécialisée dans le décryptage. Une entreprise. Spécialisé dans la négociation avec les pirates. Enfin voilà, il y a eu plein d'intermédiaires, plein de prestataires et l'ANSSI.
Ok.
Et la CNIL également.
Oui, parce qu'il y a pu y avoir une fuite de données.
Voilà, donc tous ces prestataires-là ont été sollicités.
Et lui, il se retrouve au milieu de tout ça.
Voilà.
Ah ouais.
Et puis nous,
avec des enjeux business, quoi. Ouais.
Voilà. C'est ça.
Alors, vis-à-vis de la. Parce qu'il y a une question que je me pose, et je pense qu'on se pose assez naturellement quand on entend parler de cryptolocage, c'est déjà, est-ce que lui était parti pour payer la rançon?
Donc, de ce que je sais, avec certitude en tout cas, c'est que la première semaine, l'idée était vraiment de décrypter les données.
D'accord, on essaye de récupérer sans avoir besoin de payer.
Ça c'est sûr, au départ, c'était l'idée de pas payer le crime.
Oui, mais oui, c'est ça l'idée, oui, complètement.
Et donc de tout faire, de mettre tous les moyens en place pour décrypter. Ça, c'était le premier stade. De ce que j'en sais, le premier week-end, donc au bout de la première semaine, mon prestataire a déjà imaginé quand même commencer à payer
D'accord.
des rançons. par des comptes. Alors, il a ouvert un compte Bitcoin. Enfin, il m'a raconté un peu tout ça. Ouais. Et il a commencé à verser de l'argent, en tout cas, sur ce compte-là. Et puis, en contrepartie, les pirates devaient décrypter. Donc, vous vous rappelez, il n'y a qu'un serveur à peu près concerné. Ouais. Devaient décrypter un ou deux serveurs. Enfin, ça devait aller par étapes, en
d'accord,
fait.
D'accord, on appuie sur un bouton et puis ça y est, vous repartez comme en 40. Non, c'est progressivement. En même temps, le jeu des fraudeurs, c'est ça. C'est vraiment de maximiser leurs gains. Ouais. Et donc, petit à petit, ils voient si leur client, en tout cas leur victime, est prête à payer et ils ouvrent la porte.
Ouais, c'est ça, ce que j'ai compris, c'est un petit peu un jeu de dupe. C'est-à-dire que c'est que je te verse ça pour que tu me prouves que tu peux en décrypter un. Et puis après, je te reverse ça, mais eux, ils disent en gros, vous me donnez 100 000 euros, mais en fait, après, derrière, une fois qu'ils ont décrypté deux, bah non, en fait, c'est plus 100, c'est 200. Ah, et puis c'est plus 200, c'est plus 300. Excusez-moi le terme, mais c'est des enfoirés.
Alors déjà, pour avoir ce genre de pratique, à la base, effectivement, voilà. Je pense que c'est des gens qui sont juste foncièrement malhonnêtes, mais...
Voilà, donc c'est des malhonnêtes
ça peut aller vite.
Et qui profitent de ça pour gagner un maximum d'argent.
Ouais. Et il n'y avait pas moyen de restaurer les sauvegardes? Parce qu'en général...
Non, alors oui, c'est pour ça...
Ça suffisait pas.
Effectivement, je n'ai pas expliqué, c'est qu'ils n'ont pas attaqué que les serveurs, ils ont réussi à attaquer les différentes sauvegardes. Parce que les sauvegardes qu'on a sont sur plusieurs sites.
Ouais. Mais elles sont connectées.
Et ce qui fait qu'en fait, ils ont réussi à avoir, ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont réussi à avoir l'accès à un compte super administrateur du serveur, d'Astoria, enfin, de sa terre. Donc effectivement, les sauvegardes ont été aussi touchées parce qu'elles sont connectées au serveur d'origine, donc d'Astoria, hein, qui est la société, le prestataire
avec lequel vous travaillez. Ok.
Et donc en fait, ils ont réussi à avoir l'accès super administrateur pour s'y connecter et donc pour connecter également toutes les sauvegardes de tous les clients.
Ah ouais, donc impossible de. Ouais, alors ça c'est un
donc
truc
là,
important.
Plus de sauvegarde, plus rien.
Ouais, donc là on n'a pas d'issue de secours quoi.
Alors après ce que j'ai compris c'est que Astoria avait réussi à éteindre les serveurs. Enfin, chaque serveur n'était pas au même niveau de bitlockage.
D'accord. Ils avaient réussi à les isoler petit à petit.
Ils avaient réussi à couper tout de suite.
D'accord.
Et donc, en fait, ils ont. Le bilan des choses, c'est qu'au bout de 3 semaines, on a tous récupéré nos données. Certains, grâce à la rançon. Certains, parce qu'ils n'étaient pas au même niveau de cryptage et que la société experte a réussi, en fait.
À déverrouiller tout ça. D'accord, donc tout le monde n'était pas exposé de la même manière.
Je connais pas la proportion.
Non, mais c'est intéressant.
J'ai envie de dire moitié-moitié, mais c'est peut-être un tiers à deux tiers, je sais,
bon,
je sais
pas. En tout cas, il y a eu deux façons de résoudre la crise.
C'est ça.
Parce qu'une partie des serveurs infectés avait pu être préservée, entre guillemets. Et la rançon, c'est qu'est-ce qui l'a payé cette rançon? C'est votre prestataire, c'est son assurance?
C'est le prestataire, parce que pour ouvrir un compte Bitcoin, déjà. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est qu'un particulier qui peut le faire.
Donc personne physique.
Personne physique. Donc
c'est pas l'assureur.
Donc c'est le gérant, voilà. Donc vous avez compris, pas l'assureur. Maintenant, après, faudrait interviewer Astoria.
Ouais, c'est
pour
lui
savoir.
Qu'il faudrait voir. Ok.
Je pense qu'il va, il était très bien assuré de ce qu'il m'a dit, donc il.
Oui, ça l'a pas mis à plat,
Plat. Non, ça l'a pas mis à plat et je ne crois pas qu'il ait perdu beaucoup de ses clients suite à cet épisode-là.
Ouais.
En tout cas, moi, j'en suis la preuve. Et j'en connais d'autres qui ont, au contraire, qui sont restés. Puisque, d'abord, pour deux raisons. Parce que d'abord, un, pour le remercier.
Ouais, ouais.
Et deux, parce que il va... Déjà qu'il était connu pour être une entreprise assez bien structurée sur toutes ces problématiques-là, sur la placentaise. Mais là, il le sera encore plus, puisqu'il a déjà commencé à mettre des choses encore en place, supplémentaires, d'autres dispositifs, merci, en place pour parer à tout ça.
C'est-à-dire qu'en fait, comparer un prestataire qui a déjà subi une attaque par rapport à un prestataire qui peut-être a une bonne réputation et a mis tout ce qu'il fallait en place, mais qui ne l'a jamais vécu, celui qui l'a vécu a la force de l'expérience et sait dans ses gènes, parce que ses salariés, c'est ses gènes, que on sait réagir parce qu'on a déjà une expérience et qu'il faut aller encore plus loin dans la sécurité.
Ouais. Astoria nous a proposé donc a mis en place différents dispositifs supplémentaires pour nous protéger par rapport à tout ça, même si le risque zéro n'existe pas et n'existera absolument. Jamais.
Ouais,
ça il faut en avoir conscience.
Ouais, ouais. Vous en aviez conscience avant ou pas?
Oui.
Ouais, déjà.
Oui, mais je pensais être proche de zéro. Mais on est encore plus proche de zéro. Mais le risque zéro n'existera jamais. Ouais. J'en ai encore plus conscience maintenant.
D'accord.
En disant, de toute façon, ça peut arriver une fois. Malgré tous les dispositifs, les hackers sont toujours meilleurs. Parce que...
Bah à partir du moment où on a de l'informatique, l'informatique est par essence faillible. Parce que plus les systèmes sont complexes, et Dieu sait qu'un système informatique, c'est complexe et ça l'est de plus en plus, mais plus un système est complexe, plus il y a des petites failles à certains endroits qui peuvent être exploitées. Ouais. Alors, donc on voit que votre prestataire, lui, il a mis en place un certain nombre de choses pour vous garantir une sécurité encore plus forte qu'avant. Et vous, chez Oxinet, est-ce que vous avez mis quelque chose en place pour... est-ce que vous avez changé vos pratiques, vos procédures, vos outils? Qu'est-ce qui a changé pour vous au quotidien?
Alors, déjà, dès qu'on a récupéré le serveur, j'ai passé mon week-end à sauvegarder sur mon PC.
C'est ça. Vous avez acheté 4 disques durs.
Non, parce qu'en fait, on n'a pas non plus, des données qui font 10 000 terrains. Enfin, non, j'ai une blague, mais.
Oui, je comprends.
Voilà, donc j'ai.
Mais c'est pas des gros volumes.
C'est pas non plus, ouais, c'est des volumes.
Mais tout de suite, on veut éviter effectivement de repartir déjà, 10 ans en arrière, quoi.
Première chose,
ça c'est fait.
On a récupéré les données un vendredi, donc au bout de la troisième semaine, le vendredi.
D'accord.
Moi, le samedi, dimanche, j'ai passé mon week-end à sauvegarder. voilà. Mais on sauvegarde que les données.
Oui.
Je le précise parce que je ne peux pas sauvegarder aujourd'hui les logiciels.
Et oui.
Imaginons demain la même chose se reproduit. Malgré le serveur externalisé qui est encore plus sécurisé, malgré les sauvegardes externalisées qui sont elles aussi encore plus sécurisées que hier.
Ouais.
Si ça se reproduit, certes, j'ai mes données, donc on va dire que j'ai mes fichiers Excel, Word, OK.
Oui, des trucs qui sont accessibles.
Je peux faire des devis. Bon. Mais mes devis, par exemple, ils sont pas sur Excel, ils sont sur un
logiciel spécifique. Et oui.
J'ai trois logiciels métiers, hein, un logiciel compta, un logiciel de paye, parce qu'on fait les payes en interne.
Ouais.
Et un logiciel métier.
D'organisation, planning,
de facture, de vie, etc.
Ouais, d'accord.
Ça nécessiterait de les réinstaller. Donc, les éditeurs, ils ne réinstallent pas gratuitement, il faut le savoir.
Eh oui, bien sûr.
Ça a des coûts, il faut compter, je ne sais pas, peut-être entre 500 et 1000 euros la réinstallation d'un logiciel.
Ouais.
Fois 3 ou 4, voilà, on a mis.
Probablement, ouais.
Donc, si ça arrivait, je ne pourrais pas réinstaller, enfin, je ne pourrais pas sauvegarder, récupérer rapidement
Vous seriez encore dépendant de quelqu'un qui serait vos prestataires pour chacun de vos logiciels.
Donc, ce que Astoria a mis en place sur les conseils de l'ANSSI, tout ce qu'il a mis en place suite à cela, a été validé par l'ANSSI, donc l'Agence nationale des sécurités.
La sécurité des systèmes d'information. Ouais.
Donc, gérée au niveau de l'État.
ANSSI, ouais.
Et donc, on a mis en place une sauvegarde sur un NAS, un disque dur NAS.
D'accord. Donc, c'est du stockage réseau.
Voilà, qui est chez moi.
D'accord.
Qui s'allume que pour la sauvegarde et qui s'éteint aussitôt.
Ah, très bien.
Le réseau. Qui est protégé par je sais pas combien de clés, moi je peux pas l'ouvrir.
D'accord.
Il y a que le gérant de l'entreprise Astoria et un de ses collaborateurs qui ont la clé pour c'est-à-dire que c'est dommage, je me fais voler, que quelqu'un me vole mon NAS.
Il vous embarque votre sauvegarde d'entreprise.
Oui, mais il pourra pas l'ouvrir.
Oui,
il pourra pas l'allumer. Il y a des sécurités qui font qu'il faut deux personnes.
En tout cas, d'un point de vue CNIL, vous êtes protégé.
D'un point de vue CNIL, on est protégé.
Et vos logiciels sont dessus, du coup.
Et là, ce que j'allais dire, ils sauvegardent les données et ce qu'on appelle les VM, les virtual machines, les machines virtuelles.
D'accord.
Donc les programmes.
Ouais, donc c'est vraiment une copie du disque dur de l'ordinateur.
Données et programmes.
Voilà, c'est ça. Données et programmes. Et c'est. Alors ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que votre prestataire. A conscience que les systèmes de sauvegarde qui sont performants, qui l'utilisent, sont très bien, mais on a vu qu'ils pouvaient être touchés par le virus. Et donc, il faut arriver à sortir physiquement des sauvegardes de ces systèmes-là. Et donc, une solution, c'est effectivement de vous mettre vous dans la boucle et donc d'installer ce système chez vous physiquement. Et alors ça, c'est intéressant aussi quand vous disiez que le NAS s'allume uniquement au moment de la sauvegarde et se déconnectent finalement du réseau après, parce que ça le rend hermétique du réseau. Si le réseau est touché, le NAS lui ne l'est pas.
Ouais, et donc dans le NAS, il y a deux disques durs.
Ouais.
Il y en a un qui est en miroir, quoi.
Qui sont répliqués, en plus. Ouais.
Et parce que oui, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si on fait une sauvegarde de données qui sont verrouillées,
eh ben, la sauvegarde est verrouillée.
Ça sert à rien.
Évidemment.
Donc c'est ça qu'il faut se prémunir. C'est bien beau de sauvegarder chez soi, sur son PC, mais les données sont verrouillées, ça sert à rien.
Il faut être sûr que ces sauvegardes sont saines. Il faut pas juste savoir si je peux les restaurer, il faut savoir si elles contiennent pas elles-mêmes le virus qui pourrait demain, au moment, une fois que je l'ai restauré, se réactiver, pourquoi pas, quoi.
Voilà. Par rapport à ce que vous dites tout à l'heure, Astoria a conscience qu'elle peut se faire attaquer, c'est même plus loin que ça. Astoria dit « on se fera de nouveau attaquer ».
Eh oui, alors les spécialistes disent tout ça. Hein. La question pour les RSSI dans des entreprises, c'est les responsables de la sécurité du système d'info, disent tous, la question c'est effectivement pas est-ce que,
c'est mais quand.
Absolument. Voilà.
Donc, on se fera de nouveau attaquer. Maintenant, ce qui me rassure, c'est que si je m'offre de nouveau attaquer, et que les sauvegardes, enfin toutes, on va dire la même situation qu'il y a quelques mois, typiquement déjà, dans l'immédiat, je pourrais travailler moi sur mon PC, enfin j'aurais des données. Oui. Pour continuer à faire des choses. Et de deux, mon serveur NAS, ils me le remettent, en gros, ils viennent me le rechercher.
Ils peuvent restaurer tout de suite.
En gros, je ne perdrai qu'une journée de travail.
Ouais, vous avez borné la quantité de travail que vous êtes capable de perdre.
Voilà. Maintenant, je sais que c'est une journée. Allez, on va dire une journée et demie pour être tranquille.
Ouais, mais voilà, c'est quoi, par rapport aux trois semaines là, ça n'a rien à voir.
Voilà. Et ça, c'est important de maintenant. Je sais que au pire du pire, c'est une journée et demie de travail que je perds.
Mais c'est au prix d'amélioration de la sécurité chez votre prestataire. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Même si vous avez un prestataire qui est celui qui saura restaurer votre sauvegarde, physiquement, tout n'est pas au même endroit. Physiquement,
voilà. C'est ça.
Et vraiment, ce NAS et votre sauvegarde sur votre poste.
J'ai envie de vous dire, c'était déjà le cas. Parce que lui, on avait des sauvegardes sur différents sites.
Ouais, mais à partir du moment où c'est des sites qui sont externalisés, mais qui sont connectés en permanence informatiquement, c'est comme si c'était au même endroit. Finalement.
Alors,
sauf s'il y a un lieu qui brûle. Mais d'un point de vue attaque informatique, finalement, c'est, on dit hein, l'informatique réduit les distances, c'est valable dans ce cas-là aussi. Si le réseau est là et qu'il est ouvert en permanence, vous avez une autoroute et donc c'est comme si il n'y avait pas de séparation physique.
Ouais.
Donc là, il y a une vraie séparation physique et c'est intéressant de se dire, oui, mon prestataire, il est faillible, il sera attaqué. Moi aussi, je suis faillible, je serai attaqué. Mais si on se met des dispositifs intelligents qui séparent physiquement, encore une fois, j'insiste, les systèmes, il y a quand même moyen d'arriver à une situation qui est rassurante, d'avoir un jour, voire un jour et demi maxi de perte de données. Et c'est ce qui est rien. Et ça permet de continuer à dormir sereinement.
Voilà.
Et c'est pas un détail.
Ouais, non, c'est pas un détail.
Il y a une question moi, que j'avais envie de vous poser, c'est quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux entreprises ? C'est un peu ce qu'on s'est dit là, en fait.
Oui, le conseil, c'est... Si je vais en donner un conseil, ça serait de se dire... Faut pas se dire qu'on est invulnérable. Moi, je pensais être invulnérable. Enfin, je pensais être... être invulnérable dans le sens où j'avais délégué cette mission en vérifiant que ça marchait bien, parce que en plus j'en avais eu la preuve encore une fois.
Oui, absolument, vous avez eu cette première expérience là.
Et du coup, je me disais toujours, les pirates, je m'en fous, de toute façon.
Ça ne me concerne pas.
Ça ne me concerne pas. Et je pense qu'il ne faut pas se dire ça.
Ouais.
Parce que même aujourd'hui, maintenant, avec tout ce que j'ai mis en place, ça me concerne quand même. Je suis toujours invulnérable. Bon, maintenant, j'ai juste, comme vous avez très bien dit, j'ai réduit le délai maximum que je peux perdre.
C'est ça.
Et ça, c'est important.
Ouais. Donc, effectivement, prendre conscience qu'on n'est pas invulnérable.
Ouais.
Et vous avez changé quelque chose dans votre façon d'utiliser l'informatique, parce que les attaques, elles passent beaucoup par le phishing, hein, comme on a vu dans votre première attaque. Vous avez changé quelque chose, ou vos collègues ont changé quelque chose quand ils reçoivent un mail, ils hésitent un peu plus avant de cliquer quelque part, ou c'est pas quelque chose qui a été central dans la résolution de la crise, et donc où c'est pas un sujet?
Alors déjà, les mails, on n'en reçoit pas beaucoup des spams, parce qu'on a un anti-spam depuis des années.
Et donc ça marche assez bien.
Et qui est plutôt efficace, et... Voilà, et puis ils sont sensibilisés, excusez-moi, à ça. C'est pas trop là-dessus. Moi, j'ai souri quand vous m'avez posé la question. Parce que maintenant, excusez-moi du terme, mais j'imprime plus.
Ouais. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Dans le sens où quand je fais un devis, eh ben je me l'imprime quand même dans mon dossier.
Ah, j'imprime plus. Alors pardon, j'avais compris, j'imprime intellectuellement moi.
J'imprime
de papier.
Alors c'est con parce que c'est pas dans la démarche RSE, etc. Mais quand on a vécu ça.
Mais c'est un vrai traumatisme.
À poil. À poil, on a même plus. On a même plus de dossier client. On a même plus les devis dans les dossiers clients. Parce que la GED, c'est formidable. Mais je me suis quand même remis à imprimer, à garder juste quelques...
Ouais, les traces importantes. Quoi.
Importantes
dans
les dossiers.
Ce qui va me permettre de continuer à développer mon business.
Voilà.
Et la gestion, je peux arriver à m'en débrouiller. Mais par contre, voilà, j'ai un nouveau client ou j'ai un nouveau chantier qui doit arriver. Il faut que je puisse mettre ça dans mon planning. Et donc, il ne faut pas que je le perde.
Voilà. Donc j'ai repris des anciennes habitudes. Peut-être que dans le temps, ça s'atténuera, mais pour l'instant,
aujourd'hui, il faut là-dessus. Ah ouais, je comprends. Il faut un certain temps avant que ça cicatrise, c'est normal.
Ouais.
Et il faut surtout pas minimiser cette phase de transition. Enfin, il faut digérer une expérience comme celle-là, parce que heureusement, tout s'est bien passé. Enfin, tout s'est bien passé, sauf ces 3 semaines, mais vous en êtes sorti sans perte de données. Mais ça marque. Et toutes les expériences des gens que j'ai interviewés, qu'on ait été victime ou pas. À partir du moment où on a été confronté à une tentative, eh ben ça marque. Et c'est une expérience qu'on peut pas nier, qui est là, qui est présente, qui fait partie de l'entreprise en fait à ce moment-là. Et donc il faut un certain temps pour que ce soit digéré, mais ce sera toujours un peu présent.
Il y a un moment donné, je crois que c'est dans la deuxième semaine, c'est là où je me suis, où on s'est avec ma femme dit allez, stop, maintenant on arrête d'en parler. On met les différents dispositifs en place pour aller chez les clients, pour répondre, aller faire des relevés, pour faire des devis,
ouais.
Et puis on avance. Et puis, quitte à ce que ça dure 2 mois ou X mois, ouais. Allez, on y va.
Notre métier, c'est pas de regarder notre nombril et de voir notre problème, c'est de voir qu'est-ce qu'on
d'aller
peut apporter
chez à nos clients.
Client.
Et puis, le retard qu'on aura pris sur la saisie des données et autres,
ouais.
Eh ben c'est pas grave, on va l'assumer. Maintenant, c'est facile à dire, mais il faudrait normalement que chaque entreprise fasse sa gestion de crise, enfin, rédige une gestion de crise.
Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je fais dans cette situation,
voilà.
Avec mon contexte, avec mon activité, avec mes salariés, avec mes clients, qu'est-ce que je fais?
Moi, je ne l'ai pas fait. Hein. Je ne l'ai pas fait. J'ai d'ailleurs toujours pas fait. Je ne l'ai pas écrit.
Non, mais vous avez en tête, vous avez réfléchi. Ouais, c'est ça. Déjà, c'est pas mal.
Mais je pourrais un jour l'écrire. Mais je pense que c'est... Si, pour répondre à votre question tout à l'heure par rapport à quel conseil auriez-vous par rapport à l'entreprise, ça serait mon deuxième conseil.
Vous n'êtes pas invulnable et préparez-vous.
Et préparez-vous à ça.
Concrètement, quoi. C'est un plan d'action.
C'est pas... sans l'écrire forcément, mais... Réfléchissez-y. Qu'est-ce que je ferais dans une situation similaire à la mienne?
J'ai plus d'informatique, plus rien.
J'ai plus rien. Ouais, qu'est-ce que vous feriez et au moins se préparer à les quelques premières décisions que vous pourriez avoir, quoi, à prendre.
Ouais, c'est ça, le début de la plot. Au moins savoir.
Ouais.
Mais c'est intéressant, ça résonne vachement à ce que vous nous avez dit tout à l'heure sur au bout d'une semaine, on a tourné un peu autour de soi-même sur son problème, son blocage. Et à un moment, on repasse à l'action. Mais pour repasser à l'action, il faut savoir comment on commence,
voilà.
À agir. Et donc, commencer à agir, c'est déjà avoir en tête.
Ouais.
Voilà. Quel est le début de la plot que je vais redérouler
c'est
après
ça.
Et c'est intéressant d'avoir ce point de départ.
Les décisions que j'ai prises au bout d'une semaine, je les prendrai dès le lendemain.
Bah oui, bien sûr.
Mais
c'est la force de l'expérience.
Parce que voilà, c'est l'expérience. Ouais. Mais préparez-vous à ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un conseil. Préparez-vous à subir une attaque comme ça, ou un feu, ou un vol, ou.
Vous dites pas que ça n'arrive qu'aux autres, quoi.
Voilà.
Écoutez, Antoine, merci beaucoup. C'est hyper riche d'enseignements. Je pense que ces deux conseils-là, ne vous sentez pas invulnérable et préparez-vous. En tout cas, ayez en tête les premières actions que vous metteriez en place si vous étiez dans cette situation-là. Ce sont deux conseils qui sont hyper pertinents, qui sont très concrets.
Ouais.
Et j'espère que vous qui nous écoutez, vous aurez appris de cette expérience et que dès maintenant, vous allez pouvoir vous poser la question de qu'est-ce que je fais si jamais je suis dans cette situation-là pour moi.
C'est ça. Et c'est pas simple.
Et c'est pas simple, non. Mais c'est pour ça. C'est justement parce que c'est pas simple qu'il faut se poser la question tant qu'on n'est pas face à la situation. Merci beaucoup Antoine pour votre temps et pour cet épisode. Et à vous tous qui nous écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance et n'hésitez pas à solliciter votre prestataire informatique pour discuter avec lui de ces sujets. Merci encore à tous, merci Antoine.
Merci.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Au revoir. Merci d'avoir suivi cette séance jusqu'au bout. Pour faire connaître la fraudologie et participer à notre immunisation collective de la fraude, merci de partager cet épisode à vos amis et à vos collègues, de lui donner une note 5 étoiles et de me laisser vos commentaires pour faire progresser ce podcast ou pourquoi pas me proposer des sujets à aborder dans une prochaine séance. Enfin, si vous voulez me contacter en direct, n'hésitez surtout pas, je suis présent sur LinkedIn ou sur le site fraudologie.fr. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séance de fraudologie.